Mesdames et messieurs, bonsoir. Dialogue entre Congolais ce soir, une fois encore consacré essentiellement à la crise dans le Nord Kivu. Nous verrons dans cette émission comment va s'effectuer le déroulement de l'action humanitaire à apporter aux victimes des affrontements. Toujours dans cette émission, nous entendons Monseigneur Marini, le président du Sénat et chef de la délégation interinstitutionnelle, nous fera le bilan de sa mission à Goma. Il y aura aussi le chef d'état-major général des FRDC, le général Kisempia, assure, vous allez l'entendre, que le redéploiement des troupes des FRDC va se poursuivre malgré tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en titre, un couloir humanitaire a été créé depuis hier, mardi, entre Lubero et Kanyabayonga. Cette zone sépare les forces des FRDC envoyées en renfort et les forces des militaires insurgés de la 8e région militaire. Et son objectif principal, créer justement un couloir humanitaire pour assister la population sinistrée. Les récents affrontements sur la Kanyabayonga ont causé le déplacement de plus de 100 000 habitants de cette cité. Le bilan des morts n'est pas encore connu. Franklin Moliba Sese s'est entretenu avec Idrissa Baal, chef de la section humanitaire MONUC Goma, et Patrick Lavandome, coordonnateur des affaires humanitaires et chef du bureau de Ocha au Nord Kivu. Leur entretien porte sur le déroulement de l'action humanitaire qui sera bientôt apportée aux victimes de guerre.
Patrick Lavandome, Idrissa Baal, bonjour.
Bonjour.
Je commence, ma première question s'adresse à vous, Patrick Lavandome. Quelle est la situation humanitaire actuellement en Nord Kivu?
Bon, les points les plus préoccupants au niveau de la situation humanitaire au Nord Kivu, pour l'instant, se focalisent sur la zone entre Lubero et Kanyabayonga, où lors de la dernière semaine, plus de 100 000 personnes ont quitté leur maison pour fuir les combats qui avaient lieu et pour prendre refuge au niveau de la forêt et des montagnes environnantes. Le grand problème pour ces gens, évidemment, c'est qu'on ne sait pas pour l'instant où ils se trouvent et où ils ont pris refuge.
Et quant aux gens qui sont morts, des victimes justement de ces affrontements sur l'axe Kanyabayonga?
Alors, pour l'instant, nous n'avons le rapport que d'une seule victime civile. Mais en fait, si le nombre est si faible, c'est parce que les structures de santé principalement sont fermées, les centres de santé, et que les populations, si elles ont été victimes, se cachent et ne reviennent pas dans les lieux d'agglomération.
Donc on peut dire que le chiffre que vous avez en rapport avec le monde ne reflète pas vraiment la réalité du terrain?
Même pas du tout, je dirais.
Alors, vous avez juste donné la situation de Kanyabayonga. Qu'en est-il de la situation de Nyabiondo et de Walikale?
Pour ce qui est de Walikale, il y aurait un groupe de 7000 à 8000 personnes qui à présent seraient rentrées dans la cité. Mais en fait, Walikale comporte plus de 15 000 habitants, donc il y a toujours la moitié des habitants qui se cachent dans la forêt. Mais c'est une situation qui perdure maintenant depuis plusieurs mois et qui évidemment continue à rester préoccupante parce que ces gens n'ont pas pu continuer durant au moins les 3-4 mois précédents à vaquer à leurs activités d'agriculture et de commerce.
Patrick Lavandome, vous êtes coordonnateur des actions humanitaires au Nord Kivu. Est-ce que vous êtes au courant de la situation qui prévaut dans les différents villages entre Walikale et Lubero, les villages tels que Rusamambo, Kateku, Buleusa, Marini, des villages qui ont été brûlés?
Non, je n'ai pas eu d'informations sur la situation.
Et concernant maintenant la situation de Nyabiondo, est-ce que vous connaissez quelque chose? Parce qu'il y a eu aussi des affrontements dans ces axes-là.
Tout à fait. Il y a eu des affrontements. Le gros des ONG qui travaillaient dans la région avaient déjà quitté pour le début de leurs vacances la zone à la fin de la semaine passée. On est préoccupé par le fait de nouveau que plusieurs populations civiles auraient pu être victimes de différents affrontements entre les Mai Mai et les militaires ex-ANC, la 8e région militaire. Mais nous n'avons pas encore eu de rapport précis sur vers où se dirigent ces populations.
On tourne à vous, M. Idriss Abba, vous êtes de la MONUC. La MONUC a créé une zone tampon sur l'axe Kanya-Banyonga pour faciliter les actions humanitaires. Pourquoi seulement sur cet axe-là, pendant qu'il y a plusieurs axes de conflit déjà au Nord Kivu?
Bien, merci. Je pense que autant il y a plusieurs zones de conflit dans la province, autant il faut se rendre compte et accepter que la préoccupation majeure aujourd'hui se situe au niveau de l'axe Kanya-Bayonga. Parce que c'est des affrontements très visibles, très nets et souvent très organisés et qui ont causé un mouvement massif de déplacés dans des destinations parfois inconnues. Et pour lever cette préoccupation, notre section a coordonné avec la composante militaire de la MONUC pour essayer de mettre en place un système, un dispositif militaire qui pourrait sécuriser les populations.
Oui, par rapport à ces dispositifs militaires dont vous parlez, la zone tampon, est-ce que cette zone de 10 km de périmètre peut être vue comme un couloir, un vrai couloir humanitaire, ou comme simplement une zone de sécurité?
Eh bien, c'est à la fois une zone de sécurité et un couloir humanitaire. Parce que zone de sécurité, parce que c'est une zone qui est supposée être sécurisé par les forces des Nations Unies, de la MONUC, d'une part, et couloir humanitaire, ça permettrait aux populations de rentrer dans leur village qui se situe dans cet espace.
Alors, ça, c'est la solution concrète prise par la MONUC et aussi par votre coordination, justement, pour apporter une solution humanitaire au problème sur l'axe Kanya-Banyonga. Alors, quelle est la situation adaptée au conflit, par exemple, à Nyabiondo et à Walikale, où aussi on compte de gens qui ont fui le village, de gens qui sont morts, de situations humanitaires déplorables. Quelle est la situation concrète et adaptée à ce qui se passe là actuellement?
Bon, selon les informations qu'on a reçues, et effectivement, il y a des problèmes à Walikale et à Nyabiondo. La section des affaires humanitaires avec la section des droits de l'homme s'est rendue sur les lieux. Ils ont fait un constat amer parce qu'il y a eu des pertes de vies humaines. À Nyabiondo, il y a eu un dispositif militaire qui a été mis en place. À Nyabiondo, à Kanya-Bayonga, à Rutshuru, à KCC, à Walikale, à Beni, Butembo et Lubero. Il y a des protons et des compagnies que la MONUC a mis en place pour favoriser le retour de ces populations. Mais vous savez très bien qu'il est extrêmement difficile, dans les conditions actuelles, de mobiliser la communauté humanitaire sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan logistique, c'est très difficile à gérer, mais on a mis la priorité sur l'axe Kanya-Bayonga et Lubero, parce que c'est là-bas où il y a véritablement une catastrophe humanitaire, si on peut dire.
On rentre à vous, Patrick, justement, pour parler encore de zone de couleur humanitaire ou zone de sécurité. Vous êtes le coordonnateur des humanitaires ici au Nord Kivu. Revenons concrètement sur ce qui va se passer dans le terrain. Comment l'assistance humanitaire sera apportée à la population? Est-ce que tout le monde va se retrouver dans cet espace sécurisé, ou on va apporter l'assistance dans leur village, ou les suivre là où ils ont fui les affrontements?
Alors, je pense que la première réaction que la communauté humanitaire veut faire, c'est vraiment une action pour sauver des vies. Donc on ira d'abord chez les populations là où elles se trouvent, on va au fur et à mesure avancer l'assistance humanitaire vers les points de retour et leurs villages et pouvoir remettre les infrastructures en place.
On rentre à vous aussi et on vient d'avoir une première explication. Les humanitaires vont se déplacer, vont suivre les gens où ils ont fui la guerre. Est-ce qu'ils vont être assurés de leur sécurité dans leur mouvement?
Bon, dans leur mouvement, sur le plan massif, c'est très difficile, mais dans les différents villages que je vous ai cités, il y a des pelotons qui sont mobiles. Ils sont mobiles, on a eu 10 km dans chaque village, ils font la patrouille et ils sont là pour sécuriser, et justement pour parler des 200 militaires qui ont déserté, pour essayer d'aider les FARDC à persécuter ces soldats qui sont dans la nature et qui sont en train de déranger les populations. Ça, c'est donc. Et deuxièmement, la MONUC va assurer l'escorte si c'est nécessaire, particulièrement pour traverser le parc de Virungu. Il y aura un dispositif qui sera mis en place pour pouvoir escorter les cargos humanitaires qui vont vers ces destinations. Et ensuite, à travers notre réunion d'aujourd'hui, le général Iceberg a donné des numéros de téléphone des principales personnes qui sont chargées de donner des réponses rapides en cas de danger imminent contre les humanitaires. Donc, ils peuvent contacter ces personnes à tout moment, à chaque fois qu'ils constatent qu'ils sont dans un danger quelconque, et il y aura immédiatement une réponse parce que tout est mis pour ça.
Je pourrais peut-être réagir, poursuivre ou compléter ce que mon collègue Idriss Aba a dit, par exemple sur le principe de l'escorte. La grosse majorité, si pas l'ensemble des ONG, ne veulent pas travailler avec des escortes militaires, quels que soient les militaires, que ce soit des militaires de la MONUC ou bien des militaires des FARDC ou
C'est-à-dire que
autres.
vous allez vous déplacer pour rencontrer la population, par exemple dans la forêt, sans pour autant être assuré de votre sécurité.
C'est là où justement ce mandat de neutralité est important, c'est que toute partie liée au conflit doit pouvoir reconnaître que les ONG viennent directement pour assister les
Mais
populations.
si par exemple dans les cas des insurgés, ils ne sont pas liés à des droits internationaux, alors il ne se pose pas un problème là.
C'est justement là le risque que les humanitaires courent tous les jours lorsqu'ils vont sur le terrain et qu'ils travaillent pour aider les populations congolaises, c'est que nous ne faisons pas face ici qu'à des gouvernements qui ont signé des pactes internationaux au niveau de la neutralité et des principes humanitaires, mais lorsqu'on fait face à des déserteurs et des bandits, je dirais, qui courent les rues, les humanitaires prennent quelquefois des risques là-dessus.
Dernière question, est-ce que par rapport à toutes ces contraintes, on parle de zones sinistrées par les conflits armés actuellement, est-ce que l'assistance humanitaire va couvrir le besoin des personnes sinistrées?
On va essayer effectivement de pouvoir couvrir la plupart des besoins et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une action vraiment de sauver des vies, de pouvoir limiter les souffrances de ces populations et de faire notre possible pour qu'une vie normale puisse recommencer dans cette période de Noël.
Idriss Aba, je vous pose la dernière question aussi. On constate que la MONUC a une certaine lenteur pour savoir détecter les besoins humanitaires le plus rapidement. Par exemple, à Bouramba, il y a eu des massacres, il y a eu encore des déplacés, mais jusque-là, la MONUC ne s'est pas rendue sur place. Est-ce que ces pannes-là ne risquent pas de toujours voir la population être assistée après avoir été victime de conflits armés?
N'oubliez pas que la mission principale de la MONUC, ce n'est pas l'assistance humanitaire, c'est le maintien de la paix. À travers son mandat, le maintien de la paix est la condition sine qua non pour lancer les réponses humanitaires. Donc, partout où il y a ces conflits, la MONUC s'est préoccupée pour la restauration et la stabilisation de la sécurité. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on peut lancer des programmes et des réponses. Je répète une fois que la mission principale de la MONUC, c'est le maintien de la paix, arrêter les conflits.
Patrick Lavandome, Idriss Aba, je vous remercie.
Je vous
Merci.
remercie bien.
Franklin Moliba-Cessé s'entretenait avec Idriss Aba, chef de la section humanitaire au bureau de la MONUC à Goma, et Patrick Lavandome, coordonnateur des affaires humanitaires et chef du bureau des Nations Unies pour l'action humanitaire au Nord Kivu. Leur entretien portait sur le déroulement de l'action humanitaire qui sera bientôt apportée aux victimes de guerre. Suite à l'annonce par la MONUC de l'établissement d'une zone sécurisée entre forces belligérantes dans la zone de Kanyabayonga au Nord Kivu, les réactions ne se sont pas fait attendre et vous allez l'entendre d'ailleurs, les autorités locales n'ont pas forcément la même perception sur la création de cette zone. Par exemple, le gouverneur de province du Nord Kivu, lui, se dit défavorable à une telle action de la MONUC. Eugène Serufuli suggère plutôt une action qui favorise la résolution de conflits entre tracteur de la transition ainsi qu'entre pays voisins. Il est au micro de Franklin Moliba-Cissé.
Monsieur le gouverneur, que pensez-vous de la création de zones tampons entre différentes forces en présence en conflit?
Les zones tampons entre deux bataillons d'une même armée. Pourquoi? Parce que déjà à Kanyabayonga, il y avait une unité qui était déjà brassée. Il y avait une compagnie qui était venue des ex-APC, il y avait une autre compagnie venue du 126e bataillon de l'ex-ANC qui s'était déjà brassée et qui commençait à travailler, qui faisait déjà confiance à la population de Kanyabayonga. C'est cela qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre des barrières, mettre des zones tampons pour aller où? On est dans le même pays, on doit partir, les militaires doivent partir à une même armée, il n'y a pas question de zones tampons. Les gens doivent cesser de se battre et les gens doivent regarder les intérêts de la nation. Mais nous disons aussi que la deuxième chose qu'il faut faire, il faut améliorer les relations avec les voisins. Il n'y a pas moyen de parler d'une stabilité au niveau du Nord Kivu, au niveau de la région des Grands Lacs, aussi longtemps que Kigali, Kampala et Kinshasa ne parlent pas le même langage.
Le point qui achoppe Kigali et Kinshasa, c'est les Interahamwe. Mais les troupes de renfort envoyées, c'est pour bouter dehors les Interahamwe. Mais pourquoi on refuse ces troupes de renfort au Nord Kivu?
Il faut poser la question à ceux qui refusent, les gens qui se sont déployés au Sud Kivu. Quelle a été leur mission? Vous avez appris qu'ils ont rapatrié combien des Interahamwe? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour débarrasser du Sud Kivu de ces Interahamwe? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont bouté dehors tous les Banyamulenge, n'est-ce pas?
Monsieur le gouverneur, vous voulez dire que vous n'êtes vous aussi pas d'accord avec l'envoi de ces troupes de renfort, personnellement?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que moi je ne dis pas. J'ai dit que lorsqu'il y a une décision comme celle-là et qu'il y ait dans la population une couche quelconque qui exprime des inquiétudes, en tant que responsable, pour moi, je vous dis que, comme gouverneur de province, je me suis déjà prononcé devant sur votre micro, n'est-ce pas? Je vous avais dit que des troupes qui seraient expédiées pour venir traquer les intérêts à moi vont aussi contribuer à la stabilité de cette région.
Tout à fait d'accord. Un de vos bourgmestres ici au Nord Kivu s'est aussi rangé derrière les communautés randophones pour dire non à l'envoi des 10 000 hommes. Quelles mesures vous avez prises pour lui qui représente l'autorité de Kinshasa quand même dans la mesure de sa juridiction?
Vous savez que cette question n'est pas une question administrative. C'est une question hautement politique, hautement sécuritaire. Lorsque un bourgmestre se retrouve dans sa propre communauté, mais avant d'être bourgmestre, il est d'abord membre d'une communauté, il est né quelque part.
Mais vous aussi, vous êtes membre de cette communauté, mais vous ne vous êtes pas prononcé officiellement comme ça, comme lui.
Je crois que c'est mieux de lui poser la question. De toute façon, moi, je ne suis pas président d'une communauté.
Vous êtes son chef?
Je ne suis pas son chef direct. Son chef direct, c'est le maire de la ville. Je sais que je vous disais que le problème qui se pose n'est pas un problème purement administratif. Probablement que même ce que vous dites là, son dossier doit être quelque part dans le circuit administratif. Donc il ne faut pas vraiment anticiper, mais cette question, c'est une question majeure. C'est une question qu'il ne faut pas réduire à un problème d'un bourgmestre avec ses relations avec son chef direct, le maire de la ville. Mais je crois que c'est un problème multidimensionnel qu'il faut traiter avec beaucoup de sagesse.
Monsieur le gouverneur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
En revanche, le vice-gouverneur en charge de l'administration, M. Bakungu Mitondeke, lui se prononce en faveur de la création de la zone tampon, même s'il émet quelques critiques. M. Bakungu Mitondeke, au micro de Moïse Mutunga Lukube.
D'abord, j'appelle et je demande vraiment à tout le monde, celui qui se sent vraiment et qui croit qu'il est congolais comme nous autres, d'accepter que le Congo soit dirigé par les Congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kinshasa vienne contrôler toute l'étendue de la République et que ça ne soit pas une affaire d'une partie qui échappe au contrôle de Kinshasa. Moi, je ne vois pas vraiment qui peut souhaiter à ce que le Rwanda fasse une déclaration, là où c'était, et lorsque le Congo réagit à cette déclaration pour nous envoyer des troupes, et là, il y a des marches qui se font. Alors, il faut que nos frères nous prouvent que vraiment, ils ne roulent pas pour quelqu'un d'autre. J'ai suivi la déclaration de la Monique. La Monique reconnaît que voilà, le Congo ici, effectivement, il y a eu des troupes qui sont entrées. Et que lorsqu'on constate ce genre de choses, qu'est-ce que la Monique devrait faire? D'abord, ça c'est la première question. La seconde, c'est quoi? La Monique reconnaît que ce sont des insurgés qui veulent encore mener cette guerre.
Alors qu'est-ce que vous voulez que la Monique fasse? Est-ce que cette zone tampon-là ne suffit pas?
Bon, j'ai dit que ce qu'ils ont d'abord fait, c'est d'abord quelque chose de positif. C'est déjà une chose. Mais la seconde, c'est quoi? C'est que la Monique a un mandat qui est clair. Et je ne sais pas si vous avez ça. Quand tout le monde sait qu'il y a une Monique, la Monique a telle mission, et la mission ne se fait pas, non.
Donc vous êtes contre cette zone tampon?
Non, je ne dis pas que je suis contre la zone tampon. Moi, je dis que je suis contre ce que la Monique ne veut pas faire, alors qu'elle doit, elle est en obligation de le faire. C'est ça que je reproche un peu à la Monique.
Et donc cette zone tampon pour vous, elle est bonne pour calmer les esprits?
Oui, bonne parce que ça va nous permettre peut-être de voir encore clair pour que les gens comprennent, peut-être nos amis qui veulent vraiment à tout prix la guerre, se remettent au moins en raison et comprennent qu'ils ne peuvent pas être poussés par le Rwanda pour vivre ici chez nous. Nous pouvons vivre sans l'influence rwandaise. Mais il y a des pays qui ont des relations normales. Et avec le Rwanda, on peut avoir des relations normales. Mais lorsque elle veut dicter tout ce qui se passe ici, c'est ça qu'elle ne veut pas. Moi, j'ai dit, s'il y a une zone tampo, la Monique doit aller plus loin, c'est-à-dire aller vers les insurgés, parce qu'eux, ils sont insurgés. Le mot, il est français. Hein? Le mot est français. Quand un insurgé fait de bêtises, fait ce genre de choses, est-ce qu'il faut, le considérer comme des forces régulières? Quand ce sont des insurgés, il y a un sort pour les insurgés.
Depuis le début de la crise dans le Nord Kivu, l'impression est celle d'un espace invivable où tout rime avec l'insécurité et assassinat. Nous avons joint Basile Bakumbani, un de nos envoyés spéciaux dans le chef-lieu du Nord Kivu. Il nous donne tout d'abord sa lecture de ces quelques jours qui viennent de passer dans cette ville de Goma.
Oui, écoute, Paul, vu de loin, le portrait de Goma se perçoit de façon assez tragique. Mais comme vous le savez mieux que les autres auditeurs, moi je ne suis pas basé dans cette région. Je viens donc de Deux Kassai, d'où j'ai toujours réalisé mes reportages. C'est pour dire que ma lecture au départ pouvait être la même que tous ceux qui vivent cette situation de loin. Mais en réalité, la situation est autre que ce qu'on s'imagine.
Mais quelle est donc la vraie lecture de la situation Nord Kivu, Basile?
Paul, il est vrai qu'à mon arrivée ici vendredi dernier, la situation, donc du moins politique, était encore très tendue. Mais dans la vie sociale, tout apparaît calme, la population vague librement à ses occupations, le marché, les écoles, les hôpitaux et autres services fonctionnent normalement. Dès 6 heures du matin déjà, on voit les motocyclistes qui font office de transport public ici, ils descendent déjà dans la rue pour faciliter les déplacements des habitants de Goma.
Cette situation reste ainsi jusque dans les heures tardives de la nuit, comme c'est le cas dans d'autres villes du pays.
C'est peut-être là que l'on sent une certaine crainte de l'insécurité, parce qu'ici, dès 19h, les motocyclistes arrêtent le service sur ordre donc du maire de Goma, et les routes sont plus calmes. Mais il faut savoir que ceci fait suite à une mesure sécuritaire prise par les autorités de la ville après avoir enregistré plusieurs cas d'assassinat de ces derniers. Donc avec ça, donc les nombreuses boîtes de nuit et autres bistrots ne reçoivent plus la clientèle comme c'était le cas avant.
N'est-il pas vrai, Basile, que c'est une ville où les tirs sont entendus à tout moment, Goma?
Je ne sais pas le confirmer, Paul. Car depuis que moi je suis ici, il n'y a qu'une fois où j'ai entendu deux coups de feu tirés d'ailleurs de loin.
Et si on comprend bien, Goma ne donne pas le visage terrifiant que l'on s'imagine en suivant les informations de loin.
Oui, Paul, à Goma, il y a encore la vie. Là, il faut le retenir, il y a encore la vie à Goma. Et la situation d'ailleurs est en train de se détendre, comme le confirment ces habitants que nous avons rencontrés.
Et ça a baissé la tension sur la ville parce que depuis l'arrivée de l'autorité militaire qu'on vient de placer ici et la délégation qui est venue de Kinshasa, ils se sont convenus avec les insurgés, mais je vois qu'il y a un peu de calme dans la ville.
Pour nous, par exemple, nous n'étions pas à l'école, maintenant nous avons déjà commencé à étudier et je pense que vraiment la tension a baissé.
La tension a vraiment baissé parce que nous voyons que tout le monde misait sur cette visite, alors nous attendons concrètement l'air solution. Mais pour l'instant, les gens sont là, ils attendent.
Voilà, Paul, c'est donc ça la situation de Goma, cette ville qui avance bien dans sa reconstruction après le volcan qu'il avait partiellement détruite.
Merci beaucoup, Basile. Nous restons encore dans cette partie de la République, le Nord Kivu. Cette émission, d'ailleurs, est essentiellement consacrée à ce qui se passe là-bas. Merci encore une fois, Basile Bakumbani.
Oui, merci, Paul, et bonsoir.
La délégation interinstitutionnelle dépêchée à Goma a terminé sa mission aujourd'hui mercredi dans la capitale du Nord Kivu, conduite par Mgr Marini Bodo, président du Sénat. Cette délégation a regagné Kinshasa ce soir en passant par Kisangani. José de Chartemenga a demandé à Mgr Marini ce qui ressort de sa mission au Nord Kivu, suivant cet entretien qu'ils ont eu à l'aéroport de Kisangani.
Mgr Marini Bodo, bonjour.
Bonjour.
Monseigneur, vous entrez de cette mission de Goma à la tête d'une délégation interinstitutionnelle. Quels sont les résultats que vous avez récoltés à Goma?
Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas vous donner, dans un premier temps, tous les résultats obtenus. Parce que nous sommes allés d'abord écouter la population, et aussi les responsables, quelques notabilités pour récolter les informations sur, disons, les problèmes qui les préoccupent et aussi quelques pistes de solutions. Mais il y a quand même quelques résultats positifs que nous pouvons signaler. C'est que l'arrivée de la commission a baissé aussi la tension qui a existé. Donc c'est un bon résultat également, parce qu'il y avait des tensions là-bas. Donc je crois que c'était important. Et l'arrivée aussi du général Amissi, qui est allé pour succéder à le commandant de la 8e région militaire, qui est envoyé dans la Bougie-Marie. Ça aussi a baissé la tension, je crois que c'était important. Et puis le fait qu'on a pu parler avec la population a donné quand même des bons résultats, parce que les gens ont apprécié la présence de cette commission interinstitutionnelle. Donc ce sont des bons résultats qu'on ne peut pas ignorer.
Oui, mais vous avez dit tout de même que vous avez dit que vous ne pouvez pas nous donner tous les résultats à ce stade, mais sur le terrain, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait qu'il y ait des remplacements, par exemple, à la tête de la région militaire? Est-ce qu'il y a eu des changements notables, par exemple, quant à ce qui concerne la situation militaire?
Oui, je crois que c'est tôt de le dire maintenant, puisqu'à peine il venait de faire remise de reprise seulement hier. Et il est maintenant en pleine fonction. Maintenant, il est en train d'examiner ce pour lequel il est appelé. Et je crois que d'ici peu, il va entrer encore à l'intérieur. Et il y a un fait, il est descendu avec le gouverneur sur place à Kanyamayonga pour retourner avec les gens qui opéraient sur le terrain, donc les officiers qui étaient là. C'est déjà un bon résultat parce qu'ils ont accepté de venir avec lui. Et il faisait partie aussi de la partie des personnes que nous avons pu auditionner. Donc c'est déjà très bien.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi est-ce qu'ils se sont insurgés?
Oui, mais je crois que qu'est-ce qu'ils ont dit, mais c'est à confronter avec d'autres informations que nous avons. Comme je venais de vous dire, ils ont essayé d'exprimer les problèmes qu'ils avaient ressentis. Je crois qu'il y avait ceci, on voyait comme si la troupe qui était allée là-bas, c'était pour écraser, pour faire ceci ou cela. C'est comme ça que je crois qu'il y avait une mauvaise interprétation de décisions du Conseil supérieur de la défense. Vous voyez, parce qu'il y a entre la loi ou la décision et son applicabilité, il y a toujours quelque chose quelque part. Je crois qu'il y avait une mauvaise compréhension des choses qui a fait que les autres ont pensé qu'il y a un problème, disons une situation qui va se créer contre eux, alors qu'il n'était pas le cas. Je crois qu'avec cette mauvaise interprétation, alors ça a perturbé l'ensemble des choses là-bas.
Et maintenant, ça a été bien compris?
Maintenant, ça c'est le travail du commandant pour expliquer les choses. Alors, on a dû expliquer une partie et on leur a transmis aussi le contenu même de cette décision du Conseil. Et je crois que c'était important parce qu'ils ont commencé à comprendre petit à petit que ce n'était pas ce qu'ils le pensaient. Vous voyez, c'est une communauté assez très sensible. Quand il y a un moindre problème ici et là, on pense que peut-être il y a ceci et cela. Il y a plusieurs interprétations.
Et donc la mauvaise interprétation venait de l'ancien commandant de la région militaire?
On ne sait jamais parce que l'ancien... Bah, lui, il était à Kinshasa. Il était appelé à Kinshasa. Et alors, il a diffusé l'information comme telle sans plus. Alors il a répercuté le format, disons la, le commandement qu'il a reçu. Je crois que c'est tout. Moi, pour moi, je crois que ce n'était vraiment pas un vrai problème. Parce que l'ordre donné doit être exécuté. Alors, quand il y a une entorse, quant aux tortures, n'est-ce pas, un commandement quelque part, ça donne toujours un mauvais résultat. Donc, nous avons constaté ça. Mais, alors, je crois que pour le moment, le nouveau commandant va faire son travail. Parce que l'autre est arrivé au même moment que nous. Vous voyez, il n'a pas fait tout son travail là.
Est-ce que vous avez obtenu des insurgés qui vont plus continuer à se battre ou à faire obstacle au redéploiement des troupes FARDC à l'Est?
Bon, ça c'est, comme je viens de vous dire, le travail est entre les mains du nouveau commandant maintenant. Et je crois qu'ils sont maintenant dans des réunions pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous ne pouvez pas dire, est-ce qu'ils vont faire le feu? Ben, il y a l'ordre qui a été donné. Je ne pense pas que ce soit un mauvais ordre qui a été donné. C'est seulement une fois que l'explication est là, je crois qu'on va décanter la situation.
Mais de toute façon, la communauté rwandophone, s'il faut ainsi l'appeler, du Nord Kivu, dans une conférence de presse animée aujourd'hui à Goma, continue à s'opposer au redéploiement des troupes à l'Est.
Parce qu'ils n'ont pas encore reçu les explications. C'est tout ce qu'on peut dire. Quand on va leur expliquer, ils vont comprendre.
Et maintenant que vous rentrez à Kinshasa, quel type de proposition? Est-ce que vous allez au niveau du Parlement et surtout du Sénat, vous allez faire rapport, vous allez faire des suggestions ou qu'est-ce que vous entendez faire institutionnellement parlant?
Oui, mais il faut d'abord donner le rapport à celui qui vous a envoyé, c'est le chef de l'État, avec le gouvernement, c'est eux qui vont gérer le reste. Pour le moment, comme je viens de vous dire, nous ne pouvons pas escamoter les rapports et puis commencer à les mettre sur les rues maintenant. Lorsqu'on vous envoie, vous devez retourner et faire le rapport à celui qui vous a envoyé. C'est-à-dire le gouvernement est là, il y a le chef de l'État, et ils verront dans quelle mesure tout ce que nous avons pu récolter pourra être fonctionnel.
Il semble qu'il y a d'autres membres de votre délégation qui sont restés à Goma et qui ne voudraient pas venir avec vous à Kinshasa.
Ils sont sur le point d'atterrir, ils seront là.
Quel message particulier adressez-vous à la population maintenant que vous rentrez de l'Est?
Oui, ce que nous demandons aux gens, de ne pas exagérer et d'avoir l'espoir. L'espoir pour la paix dans cette partie du pays. Ça, c'est de un. De deux, il faut que les gens évitent des mensonges et des résistances aux ordres donnés. Si nous résistons aux ordres donnés, nous n'allons pas nous développer. Je crois que c'est important que nous puissions, selon les chaînes de commandement, suivre quand même l'ordre qui est donné. Pour ce qui concerne la population, nous prêchons toujours l'amour. L'amour parmi les différentes entités ethniques. Et parce que les gens voient les tribus comme des ennemis, nous pensons que les tribus sont, ce sont des dons, ce sont des richesses tout de même. Mais alors il faut que tout ça converge vers le développement de notre pays. Si on considère que tel autre élément est à côté, donc c'est en dehors des décisions qui ont été prises à Sun City, selon laquelle il faut quand même qu'il y ait l'inclusion. Donc tout le monde doit se retrouver quelque part pour que notre pays puisse normalement fonctionner.
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, lui aussi, a terminé sa mission ce mercredi à l'est du pays. Le lieutenant-général Kisimpia Sungilanga a déclaré que le redéploiement des troupes régulières des FARDC continue à l'est du pays malgré ce qu'il appelle l'incident de Kanyabayonga. Le patron des armées congolaises a aussi rassuré que ses troupes sont maintenant suffisamment ravitaillées pour parer à toute éventualité. Kisimpia a rappelé que la mission primordiale des troupes envoyées à l'Est est de sécuriser les frontières Est de la RDC et mettre hors du territoire national toutes les troupes étrangères. Suivons cet entretien qu'il a eu avec José de Chartemenga.
Eh bien, ma mission ici à Kisangani, c'est une mission normale, en quelque sorte, c'est-à-dire mission essentiellement d'instruction et de commandement d'état-major. Ça se fait dans l'armée. Il se fait que pendant que je suis ici, où cette mission a coïncidé avec la situation particulière qui se développe à l'est de la République. Alors, pour cette raison, il fallait donc faire le point de cette situation sur place ici-là. Étant entendu que nous avons développé et nous avons déployé ici un quartier général, AC1, et puis ensuite, en fonction de cette situation, comme je venais de le dire, remonter le moral des troupes qui sont finalement engagées dans cette situation. Et puis, bon, ben, analyser, faire, comme on dit, faire l'état des lieux. Et puis, trouver des solutions aux problèmes urgents posés pour l'exécution de la mission confiée aux militaires dans le secteur. Voilà.
À peine arrivé, vous avez conféré avec le quartier général opérationnel. Est-ce qu'on peut savoir ce qui ressort de cette réunion?
Ben, c'est normal, hein. Comme je venais de le dire, nous avons déployé ici un quartier général opérationnel pour des raisons que tout le monde connaît. Il était donc normal, dès que j'arrive, que je passe au quartier général pour que le commandant des opérations me fasse le point de la situation opérationnelle sur le terrain, du point de vue du personnel, du point de vue du matériel, et essentiellement du point de vue de la logistique, et de façon à ce qu'on puisse faire le point, n'est-ce pas, porter des correctifs nécessaires pour que la machine puisse tourner comme il faut.
Vous parlez des correctifs, il y avait donc panne dans la machine?
Écoutez, quand on entame une activité ou une entreprise, et surtout quand cette entreprise n'était pas prévue, ou le déroulement de l'action planifiée a été interrompu ou perturbé, il reste entendu qu'il faut, à ce moment-là, faire des adaptations et des correctifs nécessaires, c'est évident.
En général, quel est l'état de la situation sur mercredi sur le terrain des affrontements?
La situation est calme. La situation est calme sur tous les fronts.
On a parlé d'une zone tampon à Kanyabayonga. Quel est votre commentaire au sujet de cette zone tampon?
Écoutez, nous, vous savez, quand vous regardez le secteur, vous allez voir qu'il y a des forces. Il y a d'abord les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déployées dans le secteur. Il y a bien entendu les forces de la MONUC qui sont déployées aussi dans le secteur. Les unes et les autres ont des missions. Et les forces de la MONUC ont entre autres missions, celle de garantir la paix au cas où elle est troublée, et de garantir la sécurité des personnes aussi, comme les forces armées. Alors dans l'état d'espèce, il y a eu des situations que vous connaissez qui se sont développées d'une façon tout à fait imprévisible, imprévue. Dans le secteur, il était bien entendu nécessaire, obligatoire que la MONUC prenne ses responsabilités pour assurer justement la paix dans ce secteur. C'est ce qui explique le développement, donc, enfin le déploiement des éléments de la MONUC pour créer en quelque sorte une zone tampon pour éviter que ça puisse dégénérer. Quoi. Voilà.
Zone tampon, est-ce que cette zone tampon sépare d'après vous des éléments FRDC entre eux ou bien il s'agit aussi des troupes étrangères?
Écoutez, comme vous le savez, hein, c'est pas moi qui le dis. Quoique je l'ai dit aussi, toutes les instances internationales, en commençant par la MONUC déployée chez nous, a reconnu officiellement que les troupes étrangères sur le sol congolais. Il y a des troupes étrangères qui sont engagées aux côtés des insurgés contre leurs propres forces. N'est-ce pas? C'est ça la situation qui se développe dans le secteur de Kanyabayonga.
Et d'après vous, mon général, vous n'entendez donc pas continuer à pousser les FRDC à faire la guerre contre ces troupes étrangères que vous désignez?
Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Vous êtes journaliste, vous suivez aussi l'activité de votre pays, hein? La presse ou enfin, la situation de votre pays, vous la suivez. Par exemple, vous avez suivi il y a deux semaines que votre Conseil supérieur de la défense a pris des décisions, hein, notamment celle d'assurer l'intégrité du territoire dans cette partie de la République, celle de neutraliser les forces étrangères, ou les groupes armés de quelque nature que ce soit, notamment les interahamwes rwandais, les troupes de l'armée régulière rwandaise, rwandais aussi, et voilà quoi, ces messieurs se sont coalisés contre où ils ont instrumentalisé ou en tout cas induit en erreur les forces régulières de la 8e région militaire pour les opposer aux forces qui venaient, qui n'avaient rien à voir, ou en tout cas rien contre leurs collègues de la 8e région militaire, parce qu'il était entendu qu'ils venaient ici, comme le Conseil supérieur de la défense l'a décidé, suivant les ordres du commandant suprême, n'est-ce pas, neutraliser justement les interahamwes. mettre hors des frontières nationales les troupes étrangères, notamment les troupes rwandaises, n'est-ce pas? Et assurer la protection de toutes les populations de cette partie de la République. Il n'a jamais été question d'aller se battre contre les militaires de la 8e région militaire.
Et face à ces forces étrangères, on peut dire qu'aujourd'hui, on est en situation de cessez-le-feu? Vous l'avez déclaré?
Il n'y a pas de situation de cessez-le-feu. Pour nous, il s'agit des mitins. Alors, normalement, les mitins, on les ramène à l'ordre disciplinaire, militaire. Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette interview que nous mettons fin à Dialogue entre Congrès de ce soir. Émission essentiellement consacrée à la crise du Nord Kivu. Merci beaucoup de votre attention et restez fidèles à Radio Okapi.